signe des temps. Marc Wetzmann.
Bonjour à tous. Nawal Saadawi. Nawal Saadawi, c'est d'abord un nom pas forcément très connu en France, mais un nom qui résonne de Rabat jusqu'à Dubaï, où l'annonce de sa mort, voici une semaine exactement, le 21 mars dernier, à l'âge de 90 ans, a suscité des discussions enflammées jusque dans les familles conservatrices, où on la considérait souvent comme une folle, et jusque chez les féministes islamiques de Paris, aujourd'hui, qu'elle ne laisse pas indifférente. Médecin psychiatre né au Caire, auteur de plus de 50 livres, dont la plupart furent censurés en Égypte, et qui lui valurent souvent la prison ou les menaces, mais furent traduits dans plus de 30 langues. Nawal Saadawi a été couronné des prix Gibran en 2008 et Stieg Dagerman en 2012, tandis que ses combats féministes lui valaient la réputation d'être devenue la Simone de Beauvoir du Machrek et du Maghreb. Pionnière, elle aura inspiré quantité de militantes et joué un rôle clé dans l'établissement des liens entre les premiers mouvements féministes arabes et la mouvance féministe mondiale. La mort de cette femme exceptionnelle est l'occasion d'évoquer non seulement ses combats, mais aussi son héritage aujourd'hui dans le monde arabo-musulman en crise. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Shahinaz Abdel-Salam, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes égyptienne, née en 79 au Caire, dans une famille. Votre père était militaire, général de Hosni Moubarak. Vous êtes aussi blogueuse, ingénieure informaticienne, blogueuse militante. En 2006, vous avez fait partie des pionnières du mouvement Kefayat, le mouvement de contestation sur Internet, qui s'est retrouvé place Tahrir, en fait, qui est à l'origine de la révolte de la place Tahrir. Nadia Chaban, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été engagée dans différentes associations de l'immigration depuis les années 80 en France et vous êtes aujourd'hui femme politique tunisienne, membre du parti Al-Massar. Salam Kawakibi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien directeur de l'Institut français du Proche-Orient à Alep, ancien directeur adjoint à l'Arab Reform Initiative et vous avez été professeur associé à l'Université Paris 1. Vous êtes aussi président de l'association Initiative pour une Syrie nouvelle et éditeur, puisque vous éditez des livres en français, en France, ici. Et enfin, Mariam Elie Lucas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue algérienne, militante des droits des femmes, cofondatrice de l'organisation internationale Secularism is a Woman's Issue. Et vous nous parlez depuis Alger, où vous habitez. Et je vais commencer par vous, d'ailleurs, puisque vous avez connu Nawal Saadawi.
Oui, j'ai rencontré Nawal en 1977 à Dakar pour la fondation de l'AFARD, qui est l'Association des femmes africaines pour la recherche sur le développement, plus connue sous son acronyme anglais EWAD, qui est la première association de femmes au niveau continental d'universitaires et de chercheuses.
Mmh. Et vous étiez amies, je crois, hein, toutes les deux.
Oui, nous sommes devenues amies aussitôt après notre rencontre. Je vous raconte ça en deux mots parce que c'est cocasse. Elle s'est assise à côté de moi dans l'avion qui nous emmenait à Dakar. Je ne la connaissais pas et elle ne me connaissait pas non plus. Et elle m'a questionnée, littéralement questionnée pendant tout le trajet. Et comme nous sommes arrivés ensemble, on nous a mis dans la même chambre à l'hôtel, elle a commencé à me questionner toute la nuit sur qui je connaissais, quels étaient les Égyptiens que je connaissais à Alger. Bon, il se trouve qu'ils étaient tous des gens de gauche qui sortaient des camps de Nasser, qui étaient communistes, etc. Donc je voulais pas lui répondre. Mais en même temps, j'ai fini par me dire qu'elle trouverait ça encore plus suspect. Donc je me suis résolue à lui donner le nom d'une femme en me disant on peut toujours justifier qu'on est amis avec une femme pour d'autres raisons que politiques. Et je lui dis oui, en fait j'en connais une égyptienne, elle s'appelle Didar. Et à ce moment-là, elle m'a dit à ma grande surprise, la femme de mon mari, qui était tout à fait cocasse. Et donc j'ai découvert qu'elle était mariée avec Sherif Retata, qui est un communiste extrêmement connu, qui a rejoint l'ISKRA, c'est-à-dire le Parti communiste orthodoxe, en Égypte, peu après sa fondation, qui a fait des années de camp
Oui, on va
et
en
donc,
parler
nous
un
sommes
peu.
devenus
Oui.
très amis.
Et quel genre de femme est-ce que c'était? Est-ce que vous voulez la décrire, décrire un peu sa personnalité avant qu'on rentre dans le vif du sujet?
Charismatique, intrépide, sans filtre, un peu terrible, avec
Oui.
des tantrums qui, moi, me faisaient rire, et donc ne m'affectaient pas. Quelqu'un qui a été une très bonne amie pour moi au fil des années. Elle a séjourné chez moi à Alger et aussi à La Haye, à un moment où j'y ai moi-même séjourné. Et nous sommes toujours restés en contact jusqu'à ces dernières années.
Alors, Nawal Saadawi est né au Caire, est né au nord du Caire. Son père était fonctionnaire dans l'éducation nationale. Sa mère était issue d'une famille bourgeoise assez conservatrice. Et ses travaux, ses mémoires, ses livres, je l'ai dit tout à l'heure, lui ont valu des poursuites, l'emprisonnement. Mais au-delà de l'opposition au port du voile, l'opposition à la polygamie, à l'inégalité dans l'héritage, au-delà de la dénonciation du népotisme des régimes arabes, des systèmes des partis uniques, des violences policières, sa caractéristique, c'est d'avoir utilisé sa formation de médecin psychiatre pour diagnostiquer vraiment les maux de la société égyptienne et plus largement du monde arabo-musulman et les comportements névrotiques liés à la sexualité, à la politique et à la religion. Shahinaz Abdel-Salam, vous êtes égyptienne. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous, Nawal Saadawi?
Oui, en fait, déjà, j'ai envie de dire un truc sur le mot, ce monde de Beauvoir du monde arabe, parce que Simone de Beauvoir, c'est une grande dame aussi. Mais Nawal Saadawi, c'est Nawal Saadawi, en fait. Moi, je veux pas qu'on la compare, en fait. C'est une grande dame pour nous. C'est la première qui m'a, pour moi, en fait, parce que moi aussi, je suis d'une famille conservatrice. Les livres de Nawal Saadawi, c'était censuré à la maison. En fait, c'est pour eux, pour ma famille, elle, c'était la folle athée que ses pensées sont très dangereuses pour les filles. Donc moi, en fait, la première fois quand j'ai lu Nawal Saadawi, c'était une magazine à l'école et c'était un article traduit en français. Et même moi, à l'époque, j'avais 14 ans, je savais pas que c'était une égyptienne. Et quand je découvre après, j'ai cherché pour voir c'est qui cette femme, j'ai vu qu'elle était égyptienne. Et elle est née, en fait, en Haute-Égypte. En fait, ça veut dire que c'est même pas au Caire ni à Alexandrie. C'est une femme qui vient de Haute-Égypte. Et Haute-Égypte, alors les femmes, elles sont très opprimées là-bas. Et donc, voilà. Donc, pour moi, c'est la première fois quand j'ai lu le mot liberté et je l'ai senti. C'était à travers ces écritures. En fait, c'est très fort. Je sais pas comment expliquer, mais c'est la première fois que quelqu'un que j'ai vu écrit, par exemple, que moi, tant qu'une femme ou une jeune femme, j'ai le droit sur mon corps et sur ma vie. C'est moi qui décide pour moi. Ça, c'est un truc que j'ai jamais entendu parler. Enfin, c'était pas quelque chose que j'étais consciente qu'une fille, elle peut faire ça. Et je suis pas la seule, en fait. Quand je l'ai rencontrée plus tard, quand j'ai grandi et je l'ai rencontrée, je lui ai raconté cette histoire. Et elle m'a dit que je suis pas la seule. Il y a plein de femmes et des filles qui ont lu la première fois sur la liberté de leur corps, de la liberté de leur vie, en fait, qui décident pour elles. C'était à travers elles, en fait. Et des filles qui ont 12 et 11 ans. Ça veut dire que cette femme, elle a pu expliquer ça à des jeunes femmes. Pour moi, c'est un miracle, en fait, parce que ça n'existe pas chez nous, ça, en fait. Donc, elle a fait un miracle. Elle a donné ce mot-là, liberté, à beaucoup de filles qui ont 11 et 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et c'est pas seulement en Égypte, c'est tout le monde arabe. J'ai vu cette histoire, c'est se répéter partout dans le monde arabe. Donc, pour moi, franchement, moi, je trouve qu'elle m'a donné un peu le chemin. C'est elle qui m'a ouvert la porte. Et je pense, je veux pas être, enfin, vraiment, elle m'a donné quelque chose de son âme, en fait. Cette âme de rebelle, de libre femme. En fait, c'est elle qui m'a donné ça. Et je sais pas, même mes mots, je pense qu'ils sont très faibles pour expliquer, mais.
Vous m'avez dit au téléphone, avant l'émission, vous m'avez dit qu'elle était à vos yeux plus importante que Nasser et que tous ces militaires.
Bien sûr, oui.
Et que si vous étiez fière d'être égyptienne, c'était grâce à elle.
Oui, voilà. En fait, moi, franchement, toutes les dictatures militaires ou Nasser ou qui, enfin, tous ces personnages-là qui sont un peu, même dans le monde arabe, ils ont vu comme, voilà, hein, quelque chose des grands hommes. Pour moi, franchement, j'ai honte. Pour moi, Nawal Saadawi, c'est pour ça que je suis fière d'être égyptienne. C'est à cause d'elle, en fait. C'est une femme qui parle pour toute l'humanité. C'est une femme qui parle liberté. C'est une femme qui parle critiquer et penser pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Je suis vraiment fière que c'est une Égyptienne, en fait.
Nadia Chaban.
Oui, moi, je l'ai lu pour la première fois, ça a été son livre.
Lequel
Mara Owlgens, La femme et le sexe, dans la version arabe, bien évidemment. Et je devais avoir 14-15 ans, effectivement. Et c'était une copine qui avait une sœur plus âgée qui nous l'a passée, en fait. Mais je l'ai lu, je me rappelle pas si j'ai lu Simone de Beauvoir avant ou après. Mais pour moi, c'est tout ça, c'était à la même période, la même année, les mêmes où on se pose des questions. Et alors moi, j'ai presque envie de rompre avec le mot monde arabe parce qu'elle m'a complètement convaincue de l'universalisme. Et de l'universalité de la cause, et en même temps elle m'a inscrit comme ça dans une réflexion un peu qui va au-delà de l'appartenance, et je crois qu'elle a été à l'origine de ma rupture totale avec tout ce qui est rattachement nationaliste, en fait, dans lequel j'ai jamais cru, et alors qu'à l'époque on est beaucoup dans ce questionnement, et en Tunisie à l'époque il y avait Nasser, il y avait tous les courants nasseriens et compagnie, ouais. Où je me sentais pas tout à fait à l'aise, mais quand j'ai lu ce livre,
c'était après les indépendances, c'est-à-dire que moi j'étais d'autant plus fort que les indépendances sont relativement récentes.
Moi, je l'ai découvert, donc je devais avoir 14-15 ans, donc ça devait être en 80, quelque part dans ces années-là. Et donc, elle incarnait pas du tout ce côté de l'appartenance à l'arabité ou de quelque chose de cet ordre-là. Elle incarnait la question des droits des femmes, la question de la nécessité de l'émancipation, c'est toute cette réflexion. Et je suis encore marquée par le début de ce livre. C'est-à-dire quand je repense à la première scène qui m'a énormément choquée, c'était cette jeune femme qui arrivait en consultation et qui était complètement éteinte et morte parce que considérée comme non vierge pour son mariage et autres. Et donc, dès la première page, elle pose la question de la sexualité, de la question de l'iman. Donc, elle posait des questions un peu taboues dans nos sociétés et autour desquelles il n'y avait pas réellement d'écrit ni quoi que ce soit. Et donc c'est vrai que par la suite, moi j'ai eu la chance aussi de la rencontrer par la suite, parce qu'elle était souvent aussi en Tunisie ou bien en France, hein, parce qu'il faut pas oublier qu'elle a été soutenue aussi par le mouvement féministe français lorsqu'elle a été poursuivie en 2007, quand il y a eu la plainte, je me souviens, de meeting ou de communiqué de certaines organisations pour la soutenir. J'ai beaucoup d'associations de femmes dans le mouvement féministe français la connaissaient, avaient lu ses écrits. Quand je pense à FCI, Femmes contre les intégrismes à Lyon, quand je pense même au mouvement sur plusieurs autres associations de l'immigration ou autres, elle était présente hein, dans la pensée. Et c'est vrai que c'est un personnage qui aura marqué des générations entières et qui... Lors de son interdiction, par exemple, en Égypte, elle l'était pas en Tunisie, mais ses livres n'étaient pas non plus les bienvenus.
La femme et le sexe, c'est le livre qui lui a valu d'être révoqué de ses fonctions de médecin en Égypte. Et quelques années plus tard, le magazine qu'elle publiait, qui s'appelait Health, a été interdit. Ces livres ont commencé à être censurés à partir de ce moment-là. Salam Kawakibi.
Oui, alors moi, en tant que politiste, peut-être j'ai un regard un peu plus différent, même si en mes fonctions actuelles en tant que directeur du Centre arabe de recherche d'études politiques, je développe des programmes de recherche sur le féminisme arabe et on est vraiment une équipe de recherche qui adopte complètement son combat féministe. Mais j'ai quelques observations qui peuvent être hors sujet de féminisme uniquement. J'ai eu la chance et le privilège de la côtoyer pendant un voyage en Allemagne pour un festival littéraire auquel nous étions tous les deux invités, juste le lendemain du début des printemps arabes. Elle pour parler de l'Égypte, moi pour parler de la Syrie. J'ai été très fier et presque en joie de folie d'avoir eu cette chance. Mais au bout de quelques minutes, quand on a commencé à parler politique, j'ai été un petit peu, ou plutôt beaucoup déçu par rapport à son positionnement qui est que je considère, moi, que j'ai développé dans des écrits, le positionnement des Pavloviens de la gauche arabe.
C'est-à-dire concrètement
l'expérience de Pavlov, c'est-à-dire...
Oui, non, je sais ce que c'est Pavlov, mais vous voulez dire quoi dans son...
Ceux qui considèrent que les révolutions arabes, c'est un complot de l'impérialisme américain.
Elle disait ça
pour être très rapide. Je continue parce que j'ai pas terminé la phrase. Elle était à la place Tahrir, mais elle a quand même dit aux États-Unis que elle a vu avec ses propres yeux Hillary Clinton qui diffusait des dollars aux jeunes sur la place de Tahrir. Dans la conférence à laquelle j'ai assisté.
Oui, je vous entends.
Et quand j'ai discuté avec elle par rapport à la Syrie, parce que moi je voulais pas m'ingérer dans la question égyptienne, parce que je me suis dit, elle sait mieux que moi. Elle m'a dit, la Syrie, c'est aussi complot. Bachar Assad, c'est un laïc progressiste de gauche qui fait face à l'État d'Israël. C'est loin de toute réalité.
Alors, Shaina Zabi.
Par contre, son combat féministe, j'adhère complètement.
Oui,
son combat politique.
Alors, Shaina Zabi,
peut-être il y a longtemps.
Je veux dire parce que cet argument-là, que il est un peu sur les réseaux sociaux. Je l'ai vu. Oui, elle a dit que voilà, elle a vu Hillary Clinton, donner de l'argent, à des gens qui sont à la place Tahrir. En fait, je trouve que déjà c'est quand même c'est du n'importe quoi. Et on va pas effacer.
Merci, mais j'étais en fait, là quand non, elle a dit.
Ok, c'est pas grave, mais je vous dis, en fait, elle, par exemple, elle a demandé, après quand il y a eu le coup d'État, après contre le régime islamiste de Mohamed Morsi, c'est elle qui était la première à dire les révolutions, il faut libérer les révolutionnaires qui sont en prison. C'est elle la première qui a dit, il y a moins de liberté, et je comprends pas qu'est-ce qui se passe.
Elle a dénoncé le massacre de Rabat?
C'est à elle de dire.
2000 civils tués sur une place.
Mais franchement, pour mettre tout ce chemin de cette femme-là, qui a vraiment changé la vie de millions des femmes, je veux pas dire des milliers, des millions de femmes, dans toute la région, pour dire à la fin, oui, elle a dit ça, franchement, je trouve que c'est n'importe quoi. C'est une grande dame, elle était une prisonnière politique, elle était tout le temps contre les dictatures, contre l'oppression, elle est avec la liberté, donc franchement, je trouve que c'est très,
Alors, Mariam Elie Lucas, est-ce que cette objection de Salam Kawakibi, est-ce que ça renvoie pas à un balancement comme ça dans le monde arabo-musulman, où si on refuse la religion, on se réfugie, on adhère à des, on soutient des régimes laïcs qui peuvent parfois être très durs, ou est-ce que vous reconnaissez pas du tout dans ce que dit Salam Kawakibi?
Je crois surtout qu'il faut pas prendre Nawel pour une théoricienne politique. Je pense qu'elle, au sens classique, politique, politicienne. Par contre, elle est éminemment politique dans la liaison qu'elle fait entre les droits des femmes, le patriarcat et les intégristes religieux. Et oui, bien sûr, elle a soutenu des régimes laïcs tout en voyant leurs failles. Mais je pense pas qu'il faut prendre au pied de la lettre tous ces jugements un peu à l'emporte-pièce sur la politique internationale. Elle était toujours du bon côté, toujours du côté des victimes, toujours du côté des femmes, contre les intégristes, contre les gouvernements autoritaires. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir d'elle.
Et donc même si, oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'était pas une théoricienne de politique et encore moins de géopolitique. C'était quelqu'un qui réagissait à des situations d'injustice. Et qui, essentiellement, c'était à partir de son expérience, c'est ça que vous voulez dire?
Entre autres choses, mais aussi, elle était proche de gens qui étaient dans les partis communistes du Moyen-Orient, et en particulier en Égypte, mais elle-même n'en faisait pas partie. Néanmoins, on voit bien l'imprégnation partielle dans son discours sur l'impérialisme.
Oui, c'est ça. Et quels étaient ses liens avec le nasserisme? Parce que c'était...
À ma connaissance, il n'en avait pas.
Il n'en avait pas du tout.
Il y a eu plusieurs nassers. Une chose était de soutenir les officiers libres. Et je ne sais pas quelle était sa position à l'époque. Mais autre chose, ça a été de soutenir le nasser qui a pactisé et transigé avec les intégristes, qui sont vraiment l'extrême droite politique. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas un mouvement religieux, c'est un mouvement politique pour s'emparer du pouvoir politique. Et là, elle a toujours été très claire par rapport à ça, au point qu'ils l'ont accusée d'apostasie et qu'ils ont exigé au vu et au su de tout le monde le divorce entre Shérif et Nawal, qui n'a pas opposé, mais elle était accusée d'apostasie et donc tout bon musulman ne devait pas être marié à une apostate. Et il voulait déclarer le divorce sans le consentement des époux. Mmh. Ça en dit long quand même sur la hargne qu'elle a générée simplement pour sa défense des droits des femmes et pour le lien qu'elle faisait entre intégrisme et patriarcat.
Nadia Chaban.
Moi, j'ai un souvenir sur un débat en 2013 à Tunis. Où elle a abordé la question des révolutions arabes, où elle a abordé la question des différents soulèvements, et où elle s'est arrêtée un peu sur la nécessité pour les Tunisiennes de continuer le combat et de surtout ne pas céder de terrain par rapport aux islamistes. Moi, j'ai plutôt en souvenir ces avertissements nous disant qu'il fallait surtout pas accepter l'ingérence des Qataris parce qu'il y avait des financements qui arrivaient qui finançait un tas d'associations et autres affiliées aux frères musulmans, en fait, indirectement, et des associations islamistes. Et il y avait de l'argent qatarien qui circulait pas mal et qui essayait d'influencer un peu le... Et je me souviens de plutôt sur... Mais c'est vrai que moi, à chaque fois que je l'ai entendu, en 2015, de la même manière, je l'ai revu, je l'ai réécouté dans un débat aussi à Tunis, elle était aussi sur... par exemple, le fait qu'elle ait soutenu Sisi quelque part par une forme d'acquiescement et de silence hein, par rapport à ce qui s'est passé, elle me rappelle un peu un certain nombre de mouvements féministes aussi qui se sont retrouvés face à un dilemme entre le choix des islamistes et des militaires. Les Algériens ont connu ça et le ni-ni n'a jamais été majoritaire. En Tunisie, non, le mouvement féministe tunisien n'a jamais soutenu Ben Ali. Non, je parle du mouvement féministe, je parle pas... Non, la gauche n'a pas soutenu unanimement Ben Ali, il y a eu deux gauches, elle sait c'est divisé. Les communistes n'ont pas soutenu Ben Ali, par exemple. Les communistes n'ont pas soutenu... ils n'ont pas été non plus dans l'alliance avec les islamistes, ni quoi que ce soit. Il y a eu division sur ces questions-là. Et ces divisions-là ont traversé les mouvements de gauche, ont traversé les mouvements féministes, et donc elle incarne un peu ces tiraillements entre quelque chose qui est extrêmement vécu violemment par toutes les femmes dans ces territoires et dans ces régions du monde, à savoir l'oppression les politiques menées par les islamistes. Hein, il faut voir.
Elle était sur les listes terroristes pendant combien de temps ?
Oui, elle a été sur les listes noires.
Oui, elle a été sur les listes
depuis les années 2000, hein, 2007 ou quelque chose comme ça. Et il se trouve que c'est pas toujours aussi simple, c'est pas toujours aussi... très peu arrive à moi. Pour moi, c'est la féministe avant tout. C'est pas une leader politique au sens où elle s'est jamais elle a jamais prétendu à cela. Même quand elle a fait une tentative de vouloir se présenter aux élections présidentielles, il me semble en 2005, c'était pour porter les messages des femmes. C'était pas vraiment pour incarner quelque chose sur d'autres plans. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est sur le terrain de la lutte contre le patriarcat.
Mais c'est intéressant cette question du dilemme qui est très rapidement Salam Kawakibi et ensuite Mariam et Lucas, puis on passera une autre question ensuite.
Son combat pour le féminisme, il est extraordinaire. Ce qui m'a choqué le plus après sa mort, c'est les réactions très négatives et les insultes qui ont été développées, notamment par des femmes. Les mouvements radicaux s'appuient sur des discours de femmes pour s'abriter derrière leur dos. C'est-à-dire, c'est pas nous en tant qu'hommes, en tant que sexe masculin qui s'attaque à cette féministe notoire, mais c'est les femmes.
C'est la patriarcat qui est aussi femme et homme.
C'est la patriarcat qui utilise, mais instrumentalise.
Qui est fait par les hommes.
Oui, c'est ça, mais ce que dit
mais moi, je suis tout à fait d'accord que quand elle voyageait, elle parlait de la question féministe. Mais à partir de la révolution de 2013-2014, son discours, elle était devenu très politique. Et quand on s'est vu en Allemagne, elle n'a pas du tout évoqué la question de la femme arabe. Elle a parlé des révolutions comme étant des complots, toutes les révolutions. Et ça me renvoie un peu à Sadr Jalal Azam, qui est un philosophe syrien, qui a été aussi condamné à mort par les islamistes radicaux, qui pour les révolutions, il a pris sa position très claire, en disant, même si je vais être tué par les révolutionnaires, mais c'est une révolution. Je suis pour la révolution. Alors ce sont des choix de personnel.
Juste pour expliquer,
Shaina Abdel Salam.
Non, on a juste toutes, en fait, quelque part entre 2011 et 2000, enfin jusqu'à maintenant, on était tout le monde était perdu. On était entre des opinions différentes. On était une fois là, une fois par là. Par exemple, j'ai des gens de mon, enfin, qui sont comme moi, en fait, un peu, enfin, on va dire progressistes ou du gauche, qui ont soutenu Mohamed Morsi. Par exemple, pour moi, c'est une catastrophe, mais ils l'ont fait, en fait. On était tous perdus de cette période-là. Et Nawal Saadawi, elle avait 85 ans quand même. Hein, et elle croyait à la révolution. Mm-hmm. Elle était à la place Tahrir au début. Après, franchement, de laisser tout son chemin pour parler de ça, franchement, moi, j'ai pas envie. Hein.
Okay. Mais simplement pour finir sur ce sujet.
En tant que politiste, j'ai été invité pour parler de la politique.
Attendez. Marie-Mélie Lucas, est-ce que c'est pas un dilemme que comme le disait Nadia Chaban, que les Algériens ont connu aussi au moment de en 90, quoi, c'est-à-dire le choix impossible entre les militaires et la mort, en fait. Ou l'oppression,
naturellement, mais pas seulement. C'est exactement ce qui se passe en France actuellement, et je pense dans d'autres pays en Europe et en Amérique du Nord. C'est-à-dire l'impossibilité de faire une analyse politique du mouvement intégriste. On continue à le voir comme un mouvement religieux, ce qu'il n'est pas. C'est un mouvement politique d'extrême droite pour s'emparer du pouvoir politique ou se maintenir au pouvoir. Tant que la gauche, les gauches, partout, n'auront pas fait cette analyse-là, il n'y a aucune chance de régler le problème.
امشي واديني بوسة كمان انت ما بتعرفش تبقى
C'est Mariam Saleh, chanteuse égyptienne. Il y a un élément que je voudrais aborder qui est la question à propos de Nawal Saadawi, c'est la question de la féminité. C'est-à-dire son, dans son parcours, elle parle dans Mémoire d'une femme médecin de sa bataille contre ce qu'elle appelle la féminité tyrannique pour arriver à se libérer. Et donc elle raconte un certain nombre de choses. Elle raconte dans son enfance la manière dont elle n'avait pas, dont sa grand-mère lui expliquait qu'un garçon ou 15 filles, qu'elle n'avait pas le droit de jouer avec les garçons, etc. Et ses bagarres avec ses frères et son attitude contre le mariage, puisqu'elle elle a réussi à échapper à un mariage qui était pratiquement arrangé pour elle. Donc c'est Shaynaz Abdel Salam, vous avez dû vous marier à un moment donné.
Oui, j'étais à l'époque. c'était aussi un mariage arrangé. En fait, oui. C'est vrai, c'est très, en fait, ça existe. enfin, c'est en Égypte, c'est un peu la façon dont les filles se marient. C'est un mariage arrangé, donc une personne qui vient demander la main de la fille parce qu'il se connaît que la famille a une bonne réputation ou que c'est une bonne famille, c'est une fille, voilà. Donc c'était mon cas.
Et vous êtes resté marié un an, vous êtes battu pour divorcer, si j'ai bien
compris. Oui, en fait, oui, c'était pour moi, voilà, j'étais un peu, enfin, on va dire sous pression, j'ai accepté. J'ai senti que c'était pas pour moi, je voulais pas. Et je me suis battue, oui, pour avoir ma liberté encore une fois.
Et vous avez refusé le voile, et c'est en 2005, je crois, que le blog, que vous avez monté votre blog.
Oui, en fait, oui, c'était le blog que je commençais en 2005. C'était surtout un blog militant politique pour ce qui se passait à l'époque en Égypte, voilà, donc contre les dictatures militaires et Moubarak. Donc je faisais partie aussi du mouvement de contestation à l'époque Kifaya, ça suffit. Et on était toutes des jeunes qui ont commencé à utiliser Internet et les blogs. Il n'y avait pas Facebook.
Mais votre père était militaire lui-même.
Oui, mon père était militaire. On était
général dans l'armée de Moubarak.
Général dans l'armée.
C'était à la fois une révolte contre la famille et contre les le pouvoir.
Oui, un peu. En fait, c'était peut-être inconsciemment parce que mon père et moi et ma mère, ma famille, ils n'ont pas découvert qu'après, je pense un certain moment, quand ils ont vu ma tête sur la télé parler contre Moubarak. Et c'est là qu'il a commencé les problèmes. Mais avant, je faisais tout ça en cachette. J'étais à Alexandrie et je partais au Caire pour participer à des événements contre le régime.
Non, je vous pose la question parce que Nadal Saadawi disait que la cellule familiale était la première prison des femmes et que donc la lutte contre la féminité tyrannique, c'est la lutte contre l'image qui est de la femme telle qu'elle est renvoyée d'abord par la famille et puis ensuite par la société. Et dans votre parcours. Oui, égyptienne, il y a quelque chose un peu comme ça.
Oui, voilà, c'est un peu. En fait, moi, je pense qu'il y a, oui, il y a quelque chose qui se ressemble. C'est le même parcours. C'est toujours, ça commence dans la famille. Ça commence dans la famille parce qu'on n'a pas le droit de parler comme on est une fille. On n'a pas le droit de s'exprimer et il faut être poli. Donc, il ne faut pas dire ce qu'on pense. Et c'est vrai que ça commence toujours là-bas. Et pareil, en fait, contre les imams que j'écoutais, j'entendais parce que mon balcon était en face d'un mosquée tout le temps. Donc j'étais obligée d'écouter les prêches de vendredi qui avaient des propos sur les femmes qui me fait pleurer à l'époque. Genre, en fait, les femmes, elles vont tous à l'enfer. Et les femmes, elles seront suspendues de leur langue ou leurs cheveux parce qu'ils portent pas le voile, ou de leur sein parce qu'elles couvrent pas son corps. Donc ces trucs-là, ça m'a fait un peu révolter quand j'étais encore très petite, quoi. Mmh. Et je pense que Nawal Saadawi, elle a commencé aussi. Par contre, je pense que sa famille, aussi son père, elle parlait beaucoup de son père qui était, c'est lui qui lui a dit, il faut que tu critiques tout, même Dieu, en fait.
Oui, c'est ça, c'est le paradoxe, c'est que ses parents l'ont en même temps poussé à faire des études également.
Oui.
C'est un des paradoxes de son histoire. Oui. Elle était aussi d'une nature particulière, hein, puisque elle s'est mariée trois fois. Oui. Son premier mariage avec un étudiant en médecine qui, après la guerre de Suez, s'est drogué, en fait, est devenu drogue addict. Et le second était un avocat qui lui a demandé de choisir entre lui et l'écriture. Elle a choisi l'écriture, il a refusé le divorce et elle l'a menacé, en tout cas, c'est ce qu'elle raconte, avec un scalpel pour obtenir le divorce. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui a expérimenté la liberté dans sa vie privée, en parallèle, en tout cas, à ce qu'elle expérimentait politiquement.
Et elle disait, en fait, qu'elle s'est mariée trois fois et elle a divorcé avec les trois parce qu'elle pouvait pas rester avec des gens moins qu'elle, en fait, au niveau intellectuel. Et elle aussi, elle disait que le mariage, surtout en Égypte, avec les conditions et les lois, c'est de l'esclavage. Donc, franchement,
elle faisait le lien entre le mariage et l'esclavage. Nadia Chaban.
Mais c'est déjà dans son premier livre, hein, Femmes et sexe, quand elle en parle, elle dit, il me semble, il y a plusieurs pages où elle dit si une femme devait choisir entre sa carrière et faire choisir une profession et autre, et sa vie familiale, ce qu'elle a à sacrifier, c'est sa vie familiale et non pas sa carrière. Donc elle était quand même sur ce discours-là dès le départ. Mais en même temps, j'ai un souvenir qu'il me semble que c'était son père qui lui disait, quand elle l'interpellait trop sur des questionnements autour de la religion, en fait, et qu'il était dans l'incapacité de lui expliquer parce qu'il n'avait pas ce savoir-là réellement, il lui disait tu as une cervelle, utilise-la, quoi. Mmh. Et c'est quelque chose, je crois, qu'elle, ça revient souvent d'ailleurs. Je me souviens l'avoir entendu, même dans une des conférences, l'évoquer, et elle disait, nous avons une cervelle, il faut qu'on l'utilise, et c'est, on l'utilise pour nous libérer, et non pas pour nous enchaîner, c'est donnons-nous les moyens. Et les moyens, c'est l'éducation. Donc, pour moi, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup abordé la question de l'éducation, et de l'éducation à l'égalité. Aujourd'hui, ça porte un nom. C'est-à-dire, depuis une vingtaine d'années, on parle d'éducation à l'égalité. À l'époque, on parlait pas d'éducation à l'égalité. C'était quelque chose complètement absent de la réflexion. Mais elle me fait penser, en même temps, un peu à Gisèle Halimi. Mm-hmm. Y a quelque chose de l'ordre de la rébellion, où c'est pas seulement le contexte local, c'est aussi cette envie de s'affranchir de tout et d'aller de l'avant. Il y a quelque chose en elle qui est de cet ordre-là, et je pense que elle l'a toujours transmis au travers de ses textes, ses pièces de théâtre également.
C'est en 80 qu'elle s'est opposée à la loi du parti unique.
Tout à fait, elle s'est retrouvée en prison.
Et elle s'est retrouvée en prison, c'est pour infraction à la loi de protection des valeurs contre le déshonneur. C'est intitulé génial, je trouve. Et c'est en prison qu'elle a écrit son livre Mémoire de la prison des femmes sur un rouleau de papier toilette avec un crayon à sourcils. Et les problèmes avec les islamistes sont venus plus tard avec un roman qui s'appelait La chute de l'imam, qui lui a valu les premières menaces des islamistes. Et elle s'est retrouvée.
Elle a commencé en prison aussi.
D'accord. Mmh. Et donc elle a émigré aux États-Unis, largement pour échapper avec son mari, largement pour échapper aux menaces islamistes. Et effectivement, elle s'est retrouvée, un avocat a porté plainte pour la forcer au divorce sur la base de l'apostasie, considérant qu'elle n'était pas, c'est ce que disait Mariam Elidouka tout à l'heure, considérant qu'elle n'était plus musulmane, un bon musulman devait divorcer d'elle.
Et quand on lui posait parfois la question, à chaque fois dans des émissions télé, est-ce que vous êtes musulmane? Elle répond, quel islam en fait? Parce que lequel?
De quel islam?
De l'Arabie Saoudite, l'Égypte, du Maroc, en fait, c'est Tunisie.
Oui. Salam Kawakabi, elle a écrit dans son dernier livre, je crois, hein, C'est le sang, en français, qui est paru à Beyrouth en 2014. Elle écrit sur la place Tahrir. Hein, c'est comme ça que s'ouvre le livre, hein, sur la foule envahissant la place Tahrir et qui réclame la chute du régime de Moubarak. Donc elle dénonçait quand même la corruption des gouvernements.
Bien sûr, de Moubarak, parce qu'elle était sur la place Tahrir. J'ai pas dit le contraire, mais aussi après, elle a changé complètement en réaction à son refus radical de l'arrivée des islamistes au pouvoir. C'est ce qui s'explique. Mais en même temps, ce procès qui lui a été fait pour divorcer de son mari, il a réussi par l'intermédiaire de Al-Azhar. Contre Nasser Hamed Abou Zayd.
Al-Azhar, c'est, il faut expliquer.
Al-Azhar, c'est
l'université du Caire.
L'université islamique, qui dépend du pouvoir depuis Nasser. C'est pas une université indépendante. Comme Al-Zaytouna, qui l'était indépendante, qui a donné, qui a produit des intellectuels tunisiens de grande qualité, qui ont défendu, comme Abdelmajid Sharfi et autres, qui ont défendu
Zaytouna n'avait pas du tout elle n'occupait pas la même place que l'Azhar.
Non, pour la formation.
C'est pas une autorité.
L'université. Pour la formation, je veux dire. L'Azhar forme aussi. L'Azhar forme, mais forme des gens radicaux dans le sens que le pouvoir, dans la direction que le pouvoir désire. Parce que le pouvoir a toujours utilisé, que ce soit Nasser, que ce soit Sadat, que ce soit Moubarak, que ce soit maintenant Sisi, utilise la religion comme tous les despotes dans cette région. Alors, Nawal Sadawi, bien entendu, elle était avec le départ de Moubarak, bien entendu, elle était avec les jeunes, notamment le mouvement Kifaya, mais quand il y a eu le coup d'État, et malheureusement, maintenant, une grande partie du mouvement Kifaya sont en prison. Ils ont soutenu le coup d'État militaire par refus des islamistes. Et à la fin, ils ont payé le prix très cher. Ils se trouvent maintenant à la Fatah et les autres, ils se trouvent en prison.
Mais là, il n'a pas soutenu le coup.
Shahinaz Abdel-Salam très vite, et ensuite...
Non, je vais dire, parce qu'il y a, enfin, il y a beaucoup de choses à dire dans ce que monsieur il a dit, mais franchement, oui, on a besoin de temps, mais les révolutionnaires, ils sont pas en prison parce qu'ils ont soutenu le régime Sisi. Non, c'est parce que en fait, eux aussi, ils parlent liberté.
Alors, j'ai pas dit ça.
Attends, on va...
Enfin, voilà, mais c'est vraiment, on sort hors... Enfin, c'est un peu... Je veux dire,
ils sont en prison parce qu'ils sont démocrates.
Non, mais voilà, c'est ça. Le dilemme, il est réel. On va finir cette émission. Je voudrais, Mariamel et Lucas, je voudrais votre réflexion là-dessus. Il y avait une manifestation du mouvement Irak, à Alger, je crois, jeudi, dans laquelle un carré féministe a affiché une banderole en hommage à Nawal Saadawi.
En Tunisie aussi.
Je voudrais dire quelque chose à propos de... Je voudrais revenir brièvement sur la libération des femmes et l'image qu'on donne des femmes dans le monde arabe complètement écrasées, soumises dans la famille. C'est vrai, globalement, mais toutes les féministes que je connais ont eu ou un père ou une mère qui les ont encouragées à l'éducation. Et je voudrais redonner de l'espoir aux mères féministes en leur disant qu'elles ont beaucoup d'influence, qu'il ne faut pas jeter le manche après la cognée et que si on éduque nos filles, on fait du bon travail féministe, pour commencer. Je ne voudrais pas qu'on sombre dans la déréliction de la situation des femmes dans le monde arabe. Elle est terrible, les lois sont la plupart du temps terribles, mais moi-même, je suis fille de féministe et petite fille de féministe. Alors je sais ce que ça a compté pour moi. Et j'ai donné ça à mes enfants, et j'ai des enfants féministes, que ce soit des garçons ou des filles. Alors, on se retrouve dimanche et on éduque nos enfants.
Ok, alors, merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là, on doit s'arrêter là, malheureusement.
الحوادث الأحادث في البلاد النقود عقد الجو توصف وداب في الملحات النبي صفت العيال نصف عمال زي البنات وإن النادية بريزة وقعي وإن فاطمة شرب رجعت وإن شكري
C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Aurélie Marseille, avec à la réalisation Luc-Jean Reynaud et à la technique Benjamin Perru, Alexandre James, Jean-François Georges, Mathieu Leroy, Franck Malabry, Francesca Fossati, Wojciech Noiret et Laurie Vachon. Dans un instant, une histoire particulière.
شرك هو شري وإن جوعك قط بري إن شرك هو شري وإن جوعك قط بري بس بعد التعري يديك برد الحاجات بحلفة بر العمر مر وما انتهتش المسألة
France Culture, l'esprit d'ouverture.